Europe 1. Europe 1. On de la traconte.
En novembre 2002, un étudiant autrichien se balade sur Internet, sans but précis. Et de lien en lien, il finit par atterrir sur des forums de discussion homosexuels, vraiment bizarres, qui ont pour nom gourmet, café cannibale et gay cannibale. Et à la rubrique contact, il y a comme une petite annonce. Cherche un homme bien bâti entre 18 et 30 ans, prêt pour l'abattage. C'est signé le maître boucher. L'étudiant curieux décide de jouer le jeu, pour s'amuser. Il répond donc à l'annonce. Mais juste pour voir jusqu'où ça peut aller. Le gars s'appelle Frankie. Du coup, l'étudiant se fait appeler Stevo. Et tout de suite, Stevo comprend que Frankie ne plaisante pas. Il se décrit comme cannibale, ayant déjà consommé de la chair humaine. Il dit d'ailleurs qu'elle est d'une finesse incomparable. Stevo découvre qu'il a d'ailleurs publié d'autres annonces très explicites. « Je cherche un garçon de 18 à 25 ans. Si tu es normalement constitué, je t'abattrai comme un animal et je mangerai ta chair bandante. » À partir de ce moment-là, Frankie va se mettre à lui envoyer des courriels délirants, effrayants. Tu n'imagines pas le nombre de gens qui sont prêts à se laisser dévorer. Ou alors, « J'ai besoin de viande, de chair, mon congélateur est presque vide. » Il lui envoie aussi des clichés plus sanguinolents les uns que les autres. Et un jour, il lui réclame une photo. « Je voudrais savoir si tu es appétissant. » L'étudiant n'a plus du tout envie de jouer. Alors il contacte la police autrichienne et comme il s'avère que les mails viennent d'Allemagne, les Autrichiens passent le dossier aux Allemands. La piste mène à Wüstefeld, un hameau de 7 maisons à 5 km de Rothenburg, dans le centre de l'Allemagne, dans la région de la Hesse. Le 10 décembre 2002, à 8h45 du matin, 7 policiers, accompagnés de chiens, se présentent à l'adresse qu'on leur a donnée. Avec un mandat, dans le cadre d'une enquête pour incitation à la violence. Car le droit allemand ne dit rien sur le cannibalisme. C'est un manoir immense, au moins 1000 mètres carrés. Un manoir à colombage, un peu décati. On dirait un château hanté. Mieux, un château de films d'horreur. Les policiers sonnent à la grille. Et ils voient arriver d'abord un chien, un Rottweiler. Et juste après, le propriétaire, un certain Armin Meiwes, qui serait donc, si on en croit les messages qu'il envoie, un cannibale. Il enferme le chien et il ouvre le portail. « Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Nous avons un mandat de perquisition dans le cadre d'une enquête pour incitation à la violence. Je vous en prie. » L'homme n'a pas l'air nerveux. Il fait entrer les policiers et la visite commence. Le manoir est lugubre. Le parc, d'abord, est complètement à l'abandon. Mangé par les hautes herbes, il n'a pas vu la tondeuse depuis un bail. Devant traîne une vieille Mercedes rouillée et deux épaves de Trabant. Et à l'intérieur, c'est pire. Dans certaines pièces, les fenêtres sont obstruées par des planches de contreplaqué. Les meubles sont lourds, massifs, sombres, dans le plus pur style allemand de la fin du 19e. À un moment donné, les policiers tombent sur une chambre de femme, qui a l'air occupée. Il y a des vêtements en désordre sur le lit et sur la coiffeuse, une brosse à cheveux. « Il y a une femme qui vit avec vous ?»« C'était la chambre de ma mère. Elle est morte il y a 2 ans. » Sur la porte de la chambre de Meiwes, il y a une petite plaque. « chambre d'enfant. C'est sa maman qui l'a mise il y a 42 ans. Il ne l'a jamais enlevée. Le grenier est un endroit étonnant. C'est une salle de jeu avec un immense train électrique et au milieu, il y a le squelette d'une tête de bœuf. Mais les policiers n'ont encore rien vu. Le pire se trouve au deuxième étage, dans l'ancien fumoir, là où autrefois on faisait sécher et fumer les viandes et le poisson. C'est une pièce de 6 mètres sur 4 et elle est équipée comme une boucherie, avec un croc au plafond et un étal de découpe, un billot, un hachoir à viande, une chambre froide et des couteaux. Un policier ne peut s'empêcher de demander à Maïves : vous avez mangé quelqu'un ? Peut-être. Mais c'est pas tout. Les policiers allemands tombent sur un arsenal informatique. Remarquez, c'est normal, ils seraient informaticiens, mais tout de même. 221 disques durs, 3 ordinateurs, 95 CD, 1700 disquettes, 307 vidéos, 616 fichiers d'images, plus des cassettes VHS. Mais le clou de la visite, c'est le congélateur. À l'intérieur, il y a 10 kilos de viande, soigneusement découpée, parfaitement rangée. Les policiers emballent le tout, direction le laboratoire. À 10 heures, ils font venir une pelleteuse. Leur idée est de creuser le jardin. Si Armin Maïves est véritablement un cannibale, il a dû se débarrasser de tout ce qu'il n'a pas pu manger. Les os, les dents. En creusant, la pelleteuse tombe tout de suite sur une caisse qui contient des ossements. Et là encore, direction le laboratoire. Début d'après-midi, Armin Maïves appelle son avocat. « Vous accepteriez de me défendre ? C'est pour un délit grave. » En riant, l'avocat répond.
« Pourquoi ? Vous avez un cadavre dans votre congélateur ?»
Il ne croit pas si bien dire. Les deux hommes se voient le jour même et Armin Maïves lui dit toute la vérité. « J'ai tué un homme et puis je l'ai mangé. Ça s'est passé le 10 mars de l'année dernière. » L'avocat lui conseille de se rendre. À 14h, Armin Maïves est arrêté. Les journalistes commencent à arriver et il y a maintenant un hélicoptère de la télévision au-dessus du manoir. À 15h, les radios et chaînes d'information en continu annoncent à toute l'Allemagne « Un homme soupçonné de cannibalisme a été arrêté. Il est dans les locaux de la Kriminalpolizei de Kassel. » Avant de quitter le manoir, pour être emmené au siège de la police, Armin Maïves lâche une dernière information. « J'ai tout filmé. Les cassettes sont cachées dans la maison. Vous ne les avez pas trouvées ?» Non, ils ne les ont pas trouvées. En même temps, vu la taille du manoir, ils ont dû passer à côté de tas de choses. Maïves les conduit à la cachette. Il y a 3 cassettes VHS de 2 heures chacune qu'il faudra bien visionner à un moment donné. Et voilà donc Armin Maïves dans les locaux de la Kripo, la police criminelle de Kassel. 1m80, blond, la mâchoire carrée, les yeux bleus. C'est étonnant. Il est très calme. Et il est très poli, très courtois. Et d'emblée, il assume. Oui, je suis un cannibale. Nous sommes environ 800 dans toute l'Allemagne. Et nous sommes tous passés à l'action. Entre-temps, les policiers ont réussi à entrer en contact avec un certain Ludwig, l'un de ceux avec lequel ils correspondaient. Et l'autre leur a envoyé le dernier message de Franky. « Si tu viens chez moi, tu n'en repartiras pas. » Les policiers le lui mettent sous le nez. Il assume. « Oui, j'ai bien écrit ce message, et des quantités d'autres. » « Et vous vous faisiez toujours appeler Franky ? » Je me présentais comme Franky, ou Anthropophagus, ou le maître boucher. En attendant, c'est confirmé. Le labo vient d'appeler, la viande retrouvée dans le congélateur, et les restes enterrés dans le jardin. C'est de la viande humaine. Quel est le nom de l'homme que vous avez tué ? Ah ça, je sais pas. Je ne connaissais que son pseudo sur Internet. Il se faisait appeler 1499. Il a répondu à une annonce. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un jeu qui a mal tourné ? Ah, ça n'était pas un jeu. Il est venu pour se faire abattre et dévorer. Et c'est ce qui s'est passé. Il était d'accord. Il voulait mourir. Et il ajoute pour convaincre les policiers. Regardez les vidéos. J'ai tout filmé. Il va donc falloir visionner ces fichues cassettes. Ces trois cassettes VHS filmées, d'après ce que dit Mavis, dans la nuit du 9 au 10 mars 2001. Esprit sensible s'abstenir. On y voit Armin Mavis et celui que pour l'instant, on ne connaît que sous le pseudonyme de 1499. Au début, il parle, tranquillement, de ce qui va se passer. Et ensuite, Mavis lui fait visiter l'abattoir, au deuxième étage, dans l'ancien fumoir. « Je suis très impressionné et très fier d'être le premier que tu vas abattre. » Ensuite, arrive l'heure du dîner. Et on voit Mavis donner un puissant antidouleur à 1499 et faire quelque chose de stupéfiant. Il lui tranche le pénis, figurez-vous. Et l'autre pousse un cri épouvantable. Et ensuite, ils se mettent tous les deux à cuire le pénis. Et ils se mettent à table. Leur discussion est surréaliste. Je pensais que le goût serait meilleur. Ah ouais, c'est encore caverneux, c'est difficile à cuire. Et puis peut-être qu'il est trop frais. La vidéo montre qu'ensuite, les deux hommes ont une relation intime. Ils font l'amour. Et puis, sans que sur les images on ne détecte le moindre recul, Mavis conduit 1499 dans l'abattoir. Et ça va assez vite. Il le suspend au croc de boucher, la tête en bas, il l'égorge et l'autre se vide de son sang. Après quoi ? On voit Mavis découper le corps, soigneusement. Il dissèque, il tranche, il émince, il a le geste sûr, c'est un vrai professionnel. Il glisse ensuite la viande au congélateur. Fin de la séquence vidéo. Devant leur écran, les policiers qui viennent de visionner ça sont stupéfaits. Il leur faut un peu de temps avant de retourner devant Mavis et d'entendre de sa bouche la suite de l'histoire. J'ai obtenu environ 30 kilos de viande. J'ai attendu 2 mois pour commencer à déguster. J'ai commencé par le dos. À part ça, on ne sait toujours pas qui est 1499 le dévoré. Et d'ailleurs, est-ce que c'est la seule victime ? Ah, c'est la seule, hein ? Je n'ai abattu qu'un seul homme. J'ai mis du temps, vous savez, à trouver une personne consentante. Pour identifier la victime, la police diffuse aux médias une image extraite de la vidéo. Un gros plan de son visage. Le retour est immédiat. Plusieurs personnes contactent la police, dont un homme qui vient dire qu'il a reconnu son petit ami, disparu il y a 1 an et demi. Bernd Jürgen Brandes. Il était ingénieur chez Siemens à Berlin. Et chose étrange, avant de disparaître, il a vendu sa voiture et donné tout ce qu'il avait. La police criminelle parvient à reconstituer les faits et voilà comment les choses se sont déroulées. Le 5 février 2001, Bernd Jürgen Brandes, alias 1499, répond à l'annonce passée par Franky sur le forum Gay Cannibal. « Je cherche un garçon de 18 à 25 ans. Si tu es normalement constitué, je t'abattrai comme un animal et je mangerai ta chair bandante. » Réponse de 1499. « J'ai 36 ans. Je mesure 1m75 et je pèse 72 kilos. J'espère que tu es très sérieux parce que je veux vraiment le faire. » Ensuite, à la lecture des messages, on comprend que Mavis a été plusieurs fois échaudé, que d'autres lui ont déjà dit oui, et qu'au dernier moment, ils se sont débinés. Ils parlent d'un Matteo et d'un Jürgen qui eux aussi disaient qu'ils voulaient être dévorés, mais qui se sont carapatés au dernier moment. Certains sont même venus chez lui, voir son abattoir. Ils ont même accepté que Maïves dessine sur eux des lignes de découpe, et même qu'il les suspende par les pieds grâce à son système de poulies. Mais tous, jusqu'ici, avaient reculé devant la mort. Il ne les a pas forcés. C'est ce que révèlent les conversations. Il voulait une proie docile et consentante. Et tout ça, il le dit à 14,99. Genre, t'es pas le premier à me la faire à l'envers. Mais dans son message, 14,99 est très clair. Je m'offre pour être mangé vivant par toi. Celui qui veut vraiment le faire a besoin d'une vraie victime. Dans l'un des messages, la victime, Bert Jürgen Brandes, alias 14,99, dit qu'il a du mal à dormir. « Je sais pas à quoi m'attendre. Tu as déjà abattu un homme ? Malheureusement, seulement dans mes rêves. Mais dans mes pensées, je le fais chaque nuit. Alors je suis le premier. Tu as mangé de la chair humaine avant ? Non. Ça ne se trouve pas exactement dans les supermarchés, tu vois, malheureusement. Comment sais-tu que tu vas aimer ? Ou si le sang ne te rendra pas malade ? Je me prépare avec mes rêves. Une fois, j'étais tellement excité, j'ai attrapé une aiguille et tiré mon propre sang afin de pouvoir le boire. Et ton sang, ça t'a plu ? C'était assez savoureux. Le 8 mars 2001, dernière conversation sur Internet avant la rencontre. J'espère que t'as déjà pensé à ce qui doit être fait avec mes restes. Réaliser notre rêve ne devrait pas devenir un cauchemar pour toi. Personne ne saura où j'ai disparu. Après t'avoir abattu, je te découperai habilement. Sauf pour la paire de genoux et quelques ordures charnues, la peau, les cartilages, les tendons. Il ne restera pas beaucoup de toi, je te le dis. Ok. Je vois que tu as pensé à tout, bien. On dirait que je suis le premier. Et tu ne seras pas le dernier, j'espère. J'ai déjà envisagé d'attraper un jeune de la rue, mais je préfère tuer seulement ceux qui veulent être tués. Ça aussi, ça me semble pas mauvais. Mais vu que c'est pas tout à fait légal, c'est mieux à mes yeux de tuer quelqu'un comme ça. Le lendemain, Bern Jürgen Brandes se lève comme s'il se rendait à son travail. Il va à la gare, il prend un billet aller simple pour Cassel, en espèces, et il prend le train. Dans cette enquête, inévitablement, à un moment donné, on se tourne vers les psychiatres. C'est tellement fou, on veut comprendre. Ou au moins essayer. Pourquoi et comment devient-on cannibale ? Les psychiatres repèrent un premier traumatisme dans la vie d'Armin Maïves, à l'âge de 8 ans, quand son père et ses deux frères aînés quittent la maison pour s'installer à Berlin. Et Armin se retrouve seul avec sa mère, qui est une femme autoritaire et possessive. Ils vivent tous les deux dans le sinistre manoir de Wüstefeld. C'est là que j'ai créé un ami imaginaire, mon petit frère. Je l'appelais Franky. Franky, son futur pseudo. Et dans cette vie de solitude et d'isolement, il a une distraction, la ferme d'à côté. Et notamment ce moment où tous les ans, le voisin tue le cochon. Il n'en loupe pas une miette. Il est là tous les jours, de la mise à mort jusqu'aux boîtes de conserve. Sans oublier, bien entendu, la découpe. C'est là qu'il a appris. Maïves raconte au psychiatre que plus tard, il achètera des manuels de boucherie et qu'il s'exercera sur des carcasses de viande. En 1990, il s'engage pour 12 ans dans l'armée de terre allemande. Et on se dit que c'est une occasion de couper le cordon ombilical avec sa mère. Eh bien, pas du tout. Il est affecté à un régiment de ravitaillement à Rothenburg. Et tous les soirs, il rentre dormir dans sa chambre d'enfant, comme c'est écrit sur la porte. Et pourtant, il a 30 ans. Sa vie affective, sa maman disait qu'aucune femme n'était digne de lui. Et elle ne s'est pas rendue compte qu'il était homosexuel. Et lui, il l'a refoulé. Il l'a caché. Et ça n'est que quand sa mère décède, en septembre 99, qu'il commence à s'intéresser au cannibalisme via Internet. Pour tout dire, les psychiatres sont assez désarçonnés par le personnage, et notamment par cette particularité qui en fait un cas unique. Maïves n'est intéressé que par des victimes consentantes. Parce que les cannibales, il y en a eu d'autres. Issei Sagawa, par exemple, le japonais qui a dévoré une jeune étudiante à Paris. Ou le russe Andrei Chikatlo, qui aurait dévoré 52 prostituées et enfants. Mais aucune de leurs victimes n'était consentante. L'un des psychiatres qui l'a examiné écrit sur son rapport. « Cette affaire est la plus étrange que j'ai eu à traiter. Armin Maïves est un cannibale conscient, un être content et sûr de lui. On peut partir du principe qu'il s'agit d'un acte prévu, préparé et réalisé avec conviction. » En attendant son procès, Armin Maïves est enfermé dans une prison de haute sécurité, à Cassel, à l'isolement. Les rares détenus qui le côtoient disent qu'il est très gentil et toujours prêt à rendre service. Il n'a absolument pas le profil d'un monstre. Et maintenant, il faut le juger. Et là, il y a un problème, il y a un gros problème que vous pressentez sans doute depuis le début de cette histoire. Est-ce que c'est vraiment un meurtre ? Parce qu'au fond, la victime était consentante. Mieux, elle était volontaire. Tous les échanges internet en attestent, 14,99 était candidat à être dévoré. L'avocat d'Armin Maïves a trouvé la bonne formule. C'est un meurtre par consentement mutuel. Un homicide sur demande. Mon client n'est pas un tueur. On est à quelques jours du procès, et là, rebondissement. Armin Maïves donne une interview à la presse. C'est un petit hebdomadaire local de Kassel qui décroche le scoop. La première interview du cannibale de Rothenburg, publiée à moins de 2 semaines de l'ouverture de son procès. Et pourtant, tous les grands journaux, y compris Bild, 12 millions de lecteurs, ont essayé de décrocher cette interview. Mais Maïves a choisi une feuille paroissiale locale et un révérend pour l'interviewer. Il dit qu'il s'est rapproché de la religion. Et voilà ce qu'il raconte de son crime. « C'est un péché. J'ai demandé pardon à Dieu. » Mais ça n'est pas un meurtre, on ne peut en commettre un que contre la volonté de la victime. Est-ce que vous éprouvez un remords ? J'ai commis une euthanasie, je regrette d'avoir tué. Mais Berne est devenu, à travers la nourriture, une partie de moi. C'est un souvenir. Il m'a utilisé comme un outil pour son passage vers la mort. Et à la fin, il ajoute : Je vais écrire mes mémoires. Je ne veux pas que quelqu'un s'inspire de moi. Je ne le referai jamais. C'est habile, cette interview, à moins de 15 jours du procès. C'est très habile. Le procès s'ouvre le 4 décembre 2003 devant la cour d'assises de Kassel. Et évidemment, tout le monde attend son entrée dans le box. On attend le monstre. Et dès qu'il arrive, les photographes le mitraillent. Mais en vérité, c'est un quadragénaire parfaitement ordinaire qui apparaît. Presque fade, avec sa cravate à petits carreaux. Il n'y a dans ses yeux aucune expression maléfique. Et d'ailleurs, son avocat le dit d'entrée. « Mon client n'est absolument pas un monstre !» Le président décide que les débats auront lieu à huis clos. Pas de public, seulement la presse. Et dès le début, il est très clair. L'issue de ce procès est très ouverte. Elle peut conduire dans n'importe quelle direction. D'autant que dans le code pénal allemand, il n'y a rien sur le cannibalisme. Pas une ligne. Maïves est donc jugé pour meurtre par plaisir mutuel. Et on peut résumer ce procès à cet échange entre le procureur et l'avocat du cannibale. Armin Maïves a profité de la faiblesse psychologique de Brent Jürgen Brandes. Faux ! Faux ! C'est un meurtre sur demande ! Brandès était consentant. Armin Meiwes n'a été qu'un instrument. Et l'enjeu de ce débat, évidemment, c'est la peine. Il peut prendre 15 ans ou s'en tirer avec 5 ans. On fait défiler 36 témoins à la barre. D'abord ses voisins, ses connaissances, ses anciens camarades de l'armée. Tous tiennent le même discours. Armin, c'est un chic type, toujours là quand on a besoin d'aide. Et puis on fait venir 5 garçons qui ont été en contact avec lui sur Internet. Un cuisinier de 34 ans notamment. Je me suis vite senti mal à l'aise. Pour moi, c'était un jeu de rôle, c'était une pièce de théâtre. Mais pas pour lui. Un autre vient dire. Je l'ai rencontré, il m'a trouvé trop gros. Et un troisième raconte qu'il s'est retrouvé pendu au croc de boucher. Il avait enduit mon corps d'huile et il avait dessiné sur moi les marques de découpe. Et puis j'ai eu froid. Je lui ai demandé d'arrêter, il m'a décroché tout de suite et voilà. Pour moi, ça n'était qu'un fantasme. On projette aussi des extraits de la vidéo et certains jurés se sentent mal. Ce qui est effrayant, c'est qu'à aucun moment la victime n'hésite. Ce type voulait mourir. La victime, justement. On en parle assez peu pendant ce procès. On découvre qu'il se sentait coupable de la mort de sa mère survenue lors d'un accident de voiture dans laquelle il se trouvait. Et que longtemps, il a écumé les petites annonces pour trouver une femme. Qu'il s'est fait escroquer par une Nigériane qui n'est jamais arrivée à l'aéroport où il l'attendait. Et surtout, qu'il a refoulé longtemps, longtemps son homosexualité. Mais pour ses collègues de travail, ses rares amis, c'était un homme solide, fort, sur qui on pouvait compter. C'était un homme normal. Quand il se lançait dans quelque chose, ah, il le faisait à fond. Dans sa plaidoirie, l'avocat de Meiwes s'attache au consentement de la victime. Plusieurs fois, il aurait pu tuer des hommes en son pouvoir. Il ne l'a jamais fait. Il a attendu un partenaire consentant, pas une victime. Le 30 janvier 2004, le tribunal rend son verdict. 8 ans et demi de prison. Verdict évidemment incompréhensible par tous ceux qui n'ont pas suivi le procès. Le parquet fait donc appel. Nouveau procès le 12 janvier 2006 à Francfort. Sauf que cette fois, il sera jugé pour assassinat. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et nouvelle interview. Et le journaliste qui l'interroge n'est pas un religieux, comme il y a 2 ans. Il veut du sensationnel. Il veut en avoir pour son argent. Je n'étais pas excité pendant le meurtre, ni pendant que je découpais le corps. J'étais concentré. Je voulais faire du bon travail. Mais je me suis souvent masturbé en regardant la vidéo de cette soirée. Cela faisait 40 ans que j'attendais un tel moment. À l'issue du procès, il a beau répéter qu'il s'est rapproché de la religion, que Dieu l'aide, que quand il regarde la vidéo, c'est comme s'il s'agissait d'un autre homme. À la fin, le verdict est très différent du premier procès, plus conforme à ce qu'attendait l'opinion publique. Il est condamné à la réclusion criminelle, à perpétuité. Le cannibale de Rothenburg part en prison pour très longtemps. L'histoire n'est pas totalement terminée. Car en 2007, chose qui serait impossible en France, Armin Meiwes donne une interview au journaliste Günther Stampf. Une interview filmée, tellement crue, que la plupart des plateformes de vidéos sur Internet refuseront de la mettre en ligne. Le film se vendra donc en DVD. La première bouchée fut très étrange. J'attendais ça depuis plus de 40 ans. La viande avait le goût de porc, mais de façon plus prononcée. Et le film se termine par cette phrase, finalement pleine de sagesse. « Mon histoire doit servir à comprendre que si l'on ne parle pas de ce que l'on ressent, de ce qui est au fond de soi, on finit par passer à l'acte. »
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.